Bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack. Nous aimons la chanson française. Bistånd klack, mais nous détestons les fadaises. Qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se pèle l'apôtre. Cette phrase est notre devise, notre devise. Bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack. D'accord pour les chanteurs, poètes. Bistånd klack, né dans le Rhône ou à Perpète. Suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre. Voilà notre philosophie, philosophie. Bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack, bistånd klack.
Mais on vit avec. Depuis 63 ans qu'on est rentré, on vit avec le camp, tous les jours, tous les jours. Il y a tous les jours quelque chose qui nous rappelle.
Nous vous proposons ce jour la première d'une série de trois émissions réalisées à partir d'un entretien avec Madame Jacqueline Tessier le 28 juillet 2008. Madame Jacqueline Tessier est née à Paris le 6 octobre 1923 d'une mère juive polonaise réfugiée en France et d'un père juif français d'origine marocaine. Madame Jacqueline Tessier a été déportée à Birkenau et à Bergen-Belsen du 15 mai 1944 au 7 juin 1945. Elle avait 20 ans à son arrivée à Birkenau et a aujourd'hui 84 ans. Dans cette première émission, nous évoquerons sa jeunesse dans le Paris des années 30, puis son soutien à la communauté juive pendant les années de guerre, qui la conduira à être dénoncée anonymement à la milice qui l'arrêtera. Elle sera aussitôt déportée et envoyée à Birkenau. La deuxième émission sera consacrée à son témoignage personnel sur sa vie, ce qu'elle a vu et subi à Birkenau puis à Bergen-Belsen, où elle a été transférée début janvier 1945. Enfin, la troisième émission sera consacrée à sa libération et à tous les événements survenus depuis, ainsi qu'à des réflexions sur cette terrible expérience. Madame Jacqueline Tessier préside actuellement pour le département du Doubs la FNDIRP, Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes. Nous remercions très chaleureusement Madame Jacqueline Tessier pour son courageux témoignage et pour sa grande amabilité d'avoir bien voulu nous accorder sa confiance dans cette entreprise de révélation au monde d'aujourd'hui de ce qu'il en fut de la barbarie nazie, à laquelle s'est associée une partie des Français qui ont constitué et soutenu le régime de Vichy. Nous attirons l'attention de nos auditeurs sur le caractère assez insoutenable de certaines choses qui sont rapportées au fil de cet entretien, tout en nous refusant à masquer quoi que ce soit de ce que fut la réalité des crimes nazis que certains aujourd'hui cherchent encore à nier. Madame Jacqueline Tessier, bonjour. Je vous remercie de me recevoir pour Radio Canu, pour que vous nous parliez de votre expérience pendant la guerre et de vos actions. Je vous propose peut-être de commencer par nous raconter un petit peu ce que fut votre vie, votre enfance, vos parents, et puis on arrivera comme ça, je pense, assez vite à la période de la guerre dans laquelle vous avez été impliqué très lourdement.
Oui, bon, ben alors voilà, je suis née quand même au mois d'octobre, le 6 octobre 1923, à Paris, 12e. Mon papa était bitumier, d'origine marocaine. Il s'est engagé à la guerre 1914-1918. Il a fait toute la période de guerre. Mon papa était bitumier aux mines d'asphalte du centre à Paris. J'ai dit que j'étais née à Paris, 12e, dit. Ma maman était caoutchoutière, elle était polonaise d'origine. Et oui.
Et vous êtes née en France, donc, et vous êtes...
Moi, je suis née en France,
nationalité française à la naissance.
Parce que mon papa, à l'époque, le Maroc, comme mon papa habitait le Maroc, c'était sous protectorat français, comme la Tunisie. Mais comme il s'était engagé à la guerre 39-45, il était français quand même. Donc j'étais française, moi, parce que à l'époque, les enfants avaient la nationalité du père, alors que ma mère était apatride. Elle avait toujours sa nationalité de polonaise. Parce qu'elle attendait ses papiers. Mes parents s'étaient mariés religieusement, parce que tous deux étaient israélites. Ils s'étaient mariés donc religieusement, et elle attendait ses papiers de Pologne pour régulariser son mariage à la mairie, l'état civil. Donc, moi, j'avais la nationalité du père.
Et votre mère est devenue française ?
Non, elle a été arrêtée avant. Justement. Elle a été arrêtée avant, elle était apatride. Hein. Elle a été arrêtée dans les rafles, hein, la rafle du Veldiv.
Ah oui.
Ah oui, oui, le 16 juillet 42.
Votre père aussi ?
Non, alors mon père... Bon, alors, pour en finir donc à ma jeunesse, j'ai été à l'école, j'ai eu mon certificat d'études à 12 ans et demi. À 13 ans, on m'a mis au travail. À l'époque, on mettait les enfants à travailler de bonne heure. On n'avait pas une vie très, très... Mes parents n'étaient pas riches, quoi. Alors, il fallait travailler. J'ai appris un métier. J'étais soudeuse câbleuse en téléphonie à la CIT. CIT, Compagnie industrielle des téléphones.
C'est un métier d'avenir maintenant, à l'époque.
Hein? Maintenant, c'est Alcatel. Ouais. J'ai appris la nation Alcatel. Bon, alors, j'ai appris le métier. Je commençais à 13 ans à travailler de bonne heure. Bon, ben ça allait très bien. J'avais des camarades. Je faisais partie d'un centre de sport, la FSGT, Fédération sportive et gymnique du travail. FSGT, qui se trouvait donc à la porte de Versailles. Alors j'avais mes camarades. On allait faire de la gymnastique. On allait à la piscine. Enfin bref, on avait un centre de sport. Ça allait très bien.
Et puis, l'école primaire, comment ça s'est passé pour vous ?
Eh ben l'école primaire, à l'époque, il n'y avait pas de problème.
Hein ? Je veux dire, c'est à ce moment-là que vous étiez dans une école où il y avait de nombreux enfants.
Ah oui, non, une école de la République. Hein. Ah oui, oui, c'était quelque chose qui
vous a marqué, qui vous a...
Bah oui, moi j'aimais bien aller à l'école, j'aimais beaucoup l'école, j'aimais beaucoup lire aussi à l'époque. Maintenant, on a la télévision, on a guère le temps, plus les associations. Mais enfin, à l'époque, on lisait beaucoup. Bon, j'avais ma vie de jeune fille, comme tout le monde, des camarades, garçons, filles. On faisait du vélo. Enfin, on avait une vie normale.
Et vous pratiquiez la religion juive ?
Mon père, oui, mais bon, je suivais mon père. Hein. Ouais. Surtout mon père. Hein. Oui, en famille, toutes les fêtes juives, Pâques, etc.
Dans votre environnement d'enfant, les Ah oui, il y avait de la famille. Beaucoup des...
Ah ben, il y avait de, non, des non, catholiques, de tout ça. Il y avait même beaucoup de communistes, hein, ouais. Beaucoup de garçons qui étaient athées, des filles également. Bon, il n'y avait rien de spécial, on ne faisait pas de différence. On n'en parlait pas, on ne parlait pas religion à l'époque. Hein. Le centre de sport, c'était républicain. Hein. Alors, c'était surtout des enfants d'ouvriers. Hein.
Je chante sur mon chemin, je chante, je vais de faire mon château, je chante pour du pain, je chante pour de l'eau, je couche la nuit sur l'herbe des bois, les mouches ne me piquent pas, je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien, je chante sur mon chemin, les elfes, divinité de la nuit, les elfes couchent dans mon lit. La lune se profile à pas de loup dans le bois pour danser avec nous. Je sonne chez la comtesse aujourd'hui, personne, elle est partie. Elle n'a laissé qu'un plat de riz pour moi, me dit un laquais chinois. Je chante, mais la faim qui me poursuit tourmente mon appétit. Je tombe soudain au creux d'un sentier, je défaille en tombant et je meurs à moitié. Et gendarme qui passait sur le chemin, gendarme, je tends les mains. Pitié, j'ai faim, je voudrais manger, je suis tout léger, léger. Au poste, d'autres moustaches m'ont dit au poste. Ah, mon ami, oui, 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 c'est vous le chanteur, le vagabond. On va vous enfermer, oui, votre compte est bon. Non, ficelle, tu m'as sauvé de la vie. Ficelle, sois donc béni, car grâce à toi, j'ai rendu l'esprit. Je me suis pendu cette nuit et depuis je chante. Je chante soir et matin, je chante sur les chemins. Je hante les fermes et les châteaux, un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Et je couche la nuit sur l'herbe des bois, les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, ça va, j'ai plus faim, et je chante sur mon chemin.
Donc la période de guerre est arrivée en 1939. La guerre s'est donc déclarée.
Vous aviez 16 ans.
J'avais 16 ans.
Voilà. Et à ce moment-là, votre
alors
métier...
à ce moment-là, j'ai continué mon travail à la CIT. Et puis quand il y a eu un nouveau gouvernement, quand on a perdu la guerre, les Allemands sont entrés donc dans Paris. Paris était déclarée ville ouverte. Pour ne pas être bombardé, donc on n'a pas été bombardé. Et la CIT, qui était rue des Entrepreneurs à l'époque, dans le 15e arrondissement, fonctionnait normalement. Mais étant donné que les nazis, que les Allemands nazis sont entrés occuper la France, Paris, entre autres, donc ils ont occupé aussi les entreprises. C'est-à-dire que c'est Siemens qui a occupé la CIT. Et on travaillait pour Siemens, qui faisait le même travail, mais pour Siemens. Évidemment, je reconnais que nous, on est obligés de faire notre travail correctement, nous, les ouvrières, mais quand les appareils montaient au-dessus, vers les ingénieurs, il y avait toujours des pannes, enfin, vous voyez, on retardait, fallait recommencer, enfin, c'était de la résistance, en fin de compte. Ça marchait très bien de ce côté-là. Mais nous, on nous ennuyait pas. Donc, il a fallu, quand on a eu donc le Pétain au gouvernement, avec Laval et compagnie, qui ont donc voté des lois, il fallait se faire inscrire comme juif à la préfecture de police. Alors à ce moment-là, mon papa, qui avait son cousin, qui s'appelait comme nous, Biton, pays de Théouen. Son cousin a été, son cousin Germain d'ailleurs, est allé se faire inscrire à la préfecture de police. Donc automatiquement, nous, on est obligés d'en faire autant. On portait le même patronyme, le même nom de famille. Autrement, on n'aurait peut-être pas été, hein. Je reconnais. Je reconnais qu'on n'y aurait peut-être pas été. Bon, moi, à 16 ans, 17 ans, je portais pas cas. À l'époque, les enfants s'occupaient pas trop de toutes ces choses-là. Mon papa s'est fait inscrire avec moi, évidemment. Et puis...
Au niveau du travail, on vous a pas dit, jamais, vous êtes juif, vous ne pouvez plus
jamais,
exercer cette fonction.
Jamais.
Dans le domaine qui
ils avaient besoin de moi pour le travail. J'ai eu aucun ennui. Jusqu'à la dénonciation par lettre anonyme, en le 8 mai 1944, où j'ai été dénoncée par des collaborateurs.
Et entre-temps, vous avez dû porter l'étoile ou...
Ah oui, on a porté l'étoile. Entre-temps, en 1941-42, mon papa, mes parents étaient séparés, hein, entre-temps. Mm-hmm. Ma mère était séparée de mon père. Bon, mon père a demandé à son entreprise, les mines d'asphalte du centre de Paris, si il pouvait partir travailler en zone libre. Ce que son entreprise a accepté. Donc, mais il fallait qu'il parte par ses propres moyens. Il a donc passé la ligne de démarcation à Bourges. À l'époque, il y avait, bon, il est parti là-bas. Et puis, on évitait de s'écrire, parce que, bon, les Allemands venaient tout le temps le chercher. En plus, chez moi, ils le recherchaient. Alors moi, je disais toujours, ben non, ben je sais pas. Et mon père, entre-temps, avait connu une autre personne, ma belle-mère, qui m'a donc élevée, quoi, enfin, avec qui j'étais. Et puis elle, pareil, elle disait, non, on sait pas où il est parti un beau matin, puis on l'a pas revu, on sait pas du tout où il est.
Elle était juive aussi?
Non, elle était catholique, elle. Et les Allemands revenaient régulièrement, toutes les semaines, prendre des nouvelles. Alors, bon, ils ont commencé à prendre son vélo. Il avait son vélo. À l'époque, on faisait beaucoup de vélos. Moi, j'avais mon vélo aussi. Alors, ils ont pris celui de mon père. Puis le mien, ils me l'ont laissé. J'en avais quand même besoin pour aller au travail. J'ai pas eu trop de problèmes. Jusqu'au moment de la rafle du Veldiv, il y avait des rafles entre-temps. Mais c'est vrai que je portais toujours l'étoile juive, mais je m'arrangeais... pour être rentré à l'heure, pour ne pas aller dans les cafés, parce qu'il y avait toutes les interdictions. On avait le droit d'avoir aucun contact avec la population. Mais je reconnais que quand je voulais aller au centre de sport, puisque je n'avais pas le droit d'y aller, je mettais une autre veste, sans l'étoile. Et puis j'avais falsifié ma carte d'identité, parce que en travers de la carte d'identité, il y avait le tampon juif en rouge. Bon, j'avais réussi à tout effacer doucement. Hein. J'ai mis des heures pour arriver à nettoyer comme il faut tout ça. Ensuite, j'ai frotté ma carte par terre pour la salir. Ça effaçait. Il fallait être astucieux.
Vous entriez dans le...
Ensuite, oui,
dans
oui.
Dans le domaine des faux papiers.
Voilà. Il faut être astucieux. Après, j'ai eu la visite d'un jeune homme, enfin un jeune homme d'une trentaine d'années, qui m'a demandé si je pouvais... faire un petit timbre pour retirer les intercalaires de cartes d'alimentation. Il y avait un tout petit timbre qui avait un tampon de la mairie. Alors on découpait ce petit ticket, on le collait sur des registres. En échange, on avait les intercalaires pour acheter les denrées alimentaires. Bon, alors je m'étais exercée, il y avait du rouge, du bleu, il y avait tout, mes petites bouteilles d'encre de toutes les couleurs, des porte-plumes. Je m'étais exercée, puis j'avais bien réussi à faire mon petit dessin, ça allait bien. Alors je faisais ça, et puis on remettait ce petit timbre aux personnes qui travaillaient à la mairie et qui nous remettaient les intercalaires. Avec ça, j'allais acheter des denrées alimentaires que je portais aux personnes qui étaient cachées. Il y avait des juifs qui étaient cachés, des tailleurs qui avaient travaillé beaucoup, jour et nuit, qui avaient de l'argent. Bon, alors en échange, j'arrivais à aller leur porter les denrées alimentaires. Ça marchait bien. Et puis, j'ai été dénoncée. Alors, bon, la rafle du Veldiv, j'ai appris que ma mère avait donc été arrêtée.
Vous étiez en contact avec elle encore à ce moment-là?
Je la voyais, elle habitait dans le même quartier, je la voyais de, comme ça, on se voyait, mais on ne se fréquentait pas vraiment. Mmh. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé entre mes parents, jamais posé la question. Je n'ai pas voulu savoir, comme ça je ne me faisais pas de soucis de ce côté-là. Le 16 juillet 1942... Il y a eu cette rafle du Veldiv. Moi, j'habitais à côté. J'habitais dans le 15e arrondissement. J'étais à côté. Alors, le soir, en sortant du travail, on allait, avec d'autres personnes, essayer d'apporter une boîte de sardines. Enfin, dans les conserves, dans les denrées qu'on avait, on essayait de leur apporter. Puis de l'eau, surtout, en bouteille. Une bouteille d'eau. Impossible d'approcher. La police nous empêchait d'approcher du Veldiv. Ah bah oui, bah vous êtes au courant, peut-être. Bon. Impossible d'approcher. Alors on repartait. Mais on revenait encore le lendemain.
Comment se fait-il que vous n'avez pas été inquiété, vous?
Parce que mon père, parce que j'étais française. Ils arrêtaient d'abord les étrangers.
C'est vrai que la rafle du Veldiv, ça concernait les étrangers. Juifs en France.
En plus, j'avais un laissez-passer, un Ausweis, écrit en allemand, que j'avais demandé à l'entreprise de Siemens. Tant qu'à faire. Je sauvais ma peau, moi, comme je pouvais. Ah, mais j'étais astucieuse. Donc, je me disais toujours, s'il y a une rafle, la première chose que je fais, je présente mon papier écrit en allemand et signé par le Siemens. Et ça, c'est vrai, ça m'est arrivé. J'avais pas ma carte d'identité sur moi, heureusement. Parce que ça, j'avais pas le droit de... Mais enfin, bref, présentais mon papier, puis j'avais pas eu de problème de ce côté-là. Donc, ça a duré comme ça pendant un certain temps.
Et votre mère, pour en finir?
Ah, ben, elle a été.
Vous n'avez jamais revu, parce que
au bout de 2-3 jours, ils les ont envoyés dans un camp d'internement à Pithiviers ou Beaune-la-Rolande. Elle a été à Beaune-la-Rolande. Je le sais parce que, après la guerre, quand je suis rentrée, j'ai fait faire un jugement déclaratif de décès. Et alors, on m'a donné toutes les explications me disant qu'elle avait été à Beaune-la-Rolande. Et qu'elle était morte pendant son transfert pour le camp d'extermination d'Auschwitz. D'ailleurs, il n'en est pas revenu de personne. Hein. Moi, j'en connais pas, du Veldiv.
Il y en a au moins une qui s'est échappée.
Peut-être, oui, des enfants, jeunes.
Des enfants.
Des enfants qui ont réussi à être cachés.
Très peu.
Bon, parce qu'il y avait quand même des personnes, des justes, comme on dit maintenant, qui cachaient, qui essayaient de cacher des enfants. Bon, enfin, bref, moi, j'en ai pas vu, j'en ai pas connu. Ni au camp, je n'ai pas vu non plus de personnes qui avaient été arrêtées à la rafle du Veldiv. Ça a duré comme ça un certain temps, et puis, comme je vous dis, le 8 mai 1944, on frappe à la porte, j'ouvre.
Avant d'en venir là, juillet 30, 42, mai 44, ça fait 2 ans presque. Alors pendant ces 2 années, vous
travaillez
avez travaillé tranquillement,
ah oui,
et vous faisiez
Je faisais mes petits faux. J'allais continuer à porter les denrées alimentaires aux personnes cachées. Et puis, je continuais à travailler pour Siemens. J'ai pas du tout été inquiétée.
Vous étiez des gens des réseaux, vous
non,
avez contacté?
Non, c'était personnel, individuel. C'était pas un réseau.
En 2 ans, personne n'est venu vous solliciter ou...
Ah ben non, si, pour les,
oui,
les cartes d'aliments.
Mais autrement, pour la résistance.
On ne m'a pas contacté.
Il y avait
alors, moi, j'ai rien
une
dit.
Résistance juive même qui était assez organisée.
Oui, je le sais, mais personne ne m'a rien demandé.
Ah oui,
j'ai continué comme ça. J'essayais de ne pas trop approfondir. Il ne faut pas essayer parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire. Hein. Oui. Alors donc, ça marchait comme ça.
Mm-hmm.
Vous écoutez Radio Canus en 2.2 MHz, l'émission Bistan Clac consacrée ce jour à un entretien avec Madame Jacqueline Tessier, qui a été déportée à Birkenau et à Bergen-Belsen du 15 mai 1944 au 7 juin 1945. Les illustrations musicales que vous avez entendues sont des extraits de 15 chants juifs pour violoncelle et piano, thème du film Histoire d'Amérique de Chantal Akerman. Ils sont interprétés par Sonia Wieder-Atherton au violoncelle et Daria Ovora au piano. D'autres extraits illustreront la suite de cette émission. Par ailleurs, vous avez pu entendre Charles Trenet interpréter sa composition de 1937 « Je chante » et Guy Lafitte interpréter un extrait de sa version musicale de « Que reste-t-il de nos amours ?» toujours de Charles Trenet qu'il a enregistré en 1943. Charles Trenet, qui était le chanteur de l'époque qui avait la grande préférence de Madame Jacqueline Tessier. Nous la retrouvons pour poursuivre cet entretien.
Et puis, le 7 ou 8 mai 1944, hein, à 3 mois de la libération de Paris, j'ai été arrêté par un milicien, de la milice à Pétain, qui avait reçu une lettre anonyme. Il est venu me chercher, il me dit « Suivez-moi, on va au poste de police ». Il sort un dossier, il me dit « Voilà ». On a une lettre anonyme, on a reçu une lettre anonyme nous disant qu'à telle date vous êtes allé en zone libre, parce que entre-temps j'avais été en zone libre en fraude. J'étais passé par Châtenay, dans le Loiret, vers Poitiers, essayer de trouver mon père et puis de rester là-bas.
Oui.
Ah bah oui.
Ça n'a pas marché.
Ben, j'ai pas pu trouver de travail. Mon papa, il avait une toute petite chambre et puis il n'a pas pu me garder parce qu'il voyageait à droite, à gauche. Enfin bref, j'ai été obligée de rentrer sur Paris. Bon, ça, c'est des gens qui me connaissaient bien, qui m'avaient donc dénoncé. En plus, ils étaient venus faire perquisition un jour ou deux avant. Ils avaient retourné tout mon matelas, toutes les bouteilles d'encre sur la table, les porte-plumes, parce que tout ça, c'était dénoncé dans la lettre, anonyme.
J'ai demandé postérieurement à cet entretien à Madame Jacqueline Tessier pourquoi elle n'avait pas quitté immédiatement son appartement après cette découverte. Elle m'a répondu qu'elle a effectivement prévu de quitter Paris dans les 2 ou 3 jours suivants, mais qu'elle avait plusieurs choses à faire pour organiser son départ, demander des heures à son employeur, prendre son billet de train, etc. Et elle est donc rentrée encore chez elle les soirs suivants.
Alors, vous avez une idée de qui vous avez
Non, j'ai pas su. Jamais, jamais.
Jamais.
Alors, puis j'ai pas cherché à comprendre. Mais je me rappelle que Bovarez, c'était le nom du milicien. Ça, depuis que je suis rentrée, je le répète tous les jours pour ne pas l'oublier. Parce que quand il est venu m'arrêter, quand il m'a emmené au bureau, il m'a dit « Oui, vous êtes tous de la racaille, vous êtes des salopes, vous êtes des putains. » Il m'a traité tous les noms. J'ai dit « Attention, monsieur, moi je suis française, je suis comme vous. Mon papa a fait toute la guerre de 14-18. On est français, monsieur. Je travaille pour Siemens. » Et je sors mon papier, comme... mais il savait. Mais il m'a dit, non, 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 vous êtes tous de la racaille, vous serez tous, vous crèverez tous, il me parlait comme ça, hein. Oh, j'étais dans une colère. Et puis je me retenais parce que je fallait pas trop dire, mais j'étais pas contente du tout. Enfin, bref. Il m'a dit, pour ce soir, vous allez rester au poste de police, puis demain matin, les inspecteurs viendront vous chercher, et puis vous irez chez vous, et vous prendrez des vêtements. Enfin, il m'en a raconté. Alors, la lettre anonyme, je faisais des fausses cartes d'alimentation, je portais des denrées alimentaires. Donc, j'avais été suivie. J'ai été suivie. Parce qu'après, il y a un monsieur qui était caché, qui a été arrêté. Donc, j'ai été suivie. Mais évidemment, j'étais pas toujours en train de regarder derrière. Moi, je travaillais, fallait, hein. Bon. Et puis je sais pas, dans ma tête, pouvais pas être arrêtée, c'est tout. Je savais que mon père était caché, on pouvait pas m'embêter de ce côté-là. Enfin, bref.
Tant vous étiez consciente d'avoir une activité à la limite de la légalité.
Ah oui, mais rien que... Ah oui, mais quand on vous dit interdiction d'aller au cinéma, interdiction d'aller dans le métro, que dans le dernier wagon du métro, on n'avait pas le droit d'aller dans les autres, interdiction d'aller au café, d'aller dans les parcs de sport, sur un banc, aucun contact avec personne. Dans le fond, quand on a 16-17 ans, quand on est jeune, on a envie de faire comme tout le monde, surtout quand on est en bonne santé. Hein. Alors ça, et puis enfin quand même, on était occupés par des nazis, puis on arrivait à savoir un peu ce qui se passait, de voir toutes ces rafles, ces arrestations, de dire peut-être que demain ça sera mon tour. Hein. On partait le matin, on ne savait pas si le lendemain ça ne serait pas notre tour aussi d'être arrêté. Et puis c'est comme ça que ça s'est passé. Alors j'ai passé la nuit au poste de police. Le lendemain matin, deux inspecteurs sont venus me chercher. Deux jeunes inspecteurs de police, de la préfecture
toujours
de police.
Des Français.
Mais pas des miliciens, hein, parce que la milice et puis la préfecture de police étaient différents. Hein. Ça je le précise. Hein. Alors ils sont venus me chercher, ils m'ont dit on va aller chez vous. Et puis, vous allez prendre une valise avec des vêtements, une couverture, etc. Et puis, on vous emmène à la préfecture de police. Bon, on va dans le métro. Comme de juste, on monte dans le dernier wagon du métro, puisque j'avais l'étoile. Et puis, les deux inspecteurs se trouvaient à un endroit du wagon, là, par exemple. Puis moi, comme c'était les heures d'affluence, vous voyez, il y avait beaucoup de monde. Moi, j'étais à l'autre bout. Eux, ils me tournaient le dos. J'ai bien réfléchi, il me tournait le dos. Si j'avais voulu, quand le métro s'arrêtait aux stations, j'aurais pu descendre et puis me sauver.
Pourquoi vous ne l'avez pas fait?
Parce que je ne l'ai pas fait. J'avais confiance, me disais, je suis française. Bah oui. Mais après, je suis devenue méfiante. Mais là, ça m'a servi de leçon. Enfin, on est arrivé à la préfecture, à la cité. Vous connaissez Paris, non? Pas beaucoup,
oui.
Un petit peu, oui. Alors on arrive là, ils me font monter donc dans un bureau de la préfecture, ils me disent « Vous attendez, j'attends ». Au bout d'un moment, il y a un inspecteur qui vient me chercher, il me dit « Venez avec moi dans mon bureau », il prend mon dossier, il dit « Voilà, on va tout faire pour empêcher votre déportation, mais contre la milice à Pétain, on ne peut rien, ils sont au-dessus de nous, on doit exécuter leurs ordres, mais on va quand même essayer d'empêcher votre déportation ». Je vous en donne ma parole. Vous voyez,
J'étais gêné. Quoi.
Il était gêné, mais il essayait de faire quelque chose, de me remonter le moral. Ben, je lui ai dit, écoutez, j'ai confiance en vous. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, hein? Je lui ai dit, j'allais à mon travail. J'essayais d'être dans la légalité. Hein, je lui ai pas dit que j'avais effacé ma carte d'identité. J'ai rien dit. Tout ça, ça. D'abord, il m'a rien demandé. Ils avaient le dossier, ils savaient. Alors le soir, on allait coucher au dépôt en face, hein, une grande salle, qui était gardée par des sœurs. À l'époque, c'était des sœurs qui s'occupaient de nous, mais qui étaient très gentilles avec nous, très gentilles. Elles nous appelaient ma petite, allez mes petites, venez, allez mes petites. Elles savaient. Nous, on ne savait pas, mais elles savaient. Enfin bref, ça a duré quelques jours. Ensuite, on nous a dit le matin, la sœur nous a dit... vous allez attendre à l'accueil, vous n'allez pas dans les bureaux de la préfecture, vous attendez à l'accueil, on va venir vous chercher. Alors ma sœur, où on va aller, qu'est-ce qu'on va faire, etc. On voulait savoir. Ben, Elle nous disait, on ne sait pas, on nous a donné l'ordre de vous faire savoir, d'attendre à l'accueil, on va venir vous chercher. Il y a donc un fourgon cellulaire qui est arrivé avec des petites cellules, vous savez, comme ça existe toujours d'ailleurs. Voilà. Et on nous a fait monter dans ce fourgon. On a traversé tout Paris. On ne savait toujours pas où on allait. On est arrivé à Drancy. À Drancy, on est redescendu. On nous a mis. Alors, faut pas oublier que tous les camps d'internement, tous les camps qui étaient en France, dans toute la France, sauf Schirmeck, évidemment, mais tous les autres camps, c'était des camps d'internement. Et les camps en Allemagne, c'était des camps de concentration. Ça, je précise bien aux élèves, faut faire la différence entre un camp d'internement et un camp de concentration, ou un camp d'extermination aussi. Alors bon, nous, on est descendu donc à Drancy. On nous a dit, attendez là, sur la place, attendez là, l'appel. Alors on est descendu. C'est là qu'a été Madame Lorac. Vous l'avez connue, Madame Lorac, non? Qui a fait le musée. Bon, enfin bref, on est... Madame Veil aussi. Elle est arrivée un mois avant moi, elle, au camp. Enfin bref, on est descendu, on a attendu, on nous a fait monter dans des salles. On nous a dit, voilà, prenez une paillasse, installez-vous dans un coin où vous trouverez de la place. Et puis vous serez là, vous coucherez là tous les soirs. Et puis après, vous descendrez dans le camp. Alors là, on ne faisait rien. Alors on est monté dans la salle. Alors il y avait déjà des personnes qui avaient été arrêtées, qui étaient là, qui attendaient aussi, en transit, en somme, parce qu'après, pour repartir dans d'autres camps. Alors ils nous demandaient, vous avez des nouvelles d'un tel, qui habitait à tel endroit, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qu'on connaissait du 11e arrondissement. On les connaissait, puisqu'on se fréquentait, quoi, on se côtoyait. Alors bon, on passe quelques jours comme ça, on montait. On avait notre...
Vous étiez nourri correctement quand même, à peu près.
Oh oui, je ne me souviens même plus. Ça, je ne m'en rappelle plus du tout. Mais enfin, ça allait. Ça allait parce que ça a duré quelques jours. Et puis ensuite, on nous a dit maintenant, vous prenez vos affaires, valises, vos couvertures. On avait emmené une petite valise avec une couverture, un peu de linge de rechange. Quoi qu'il y avait des gens qui avaient de l'argent, qui avaient des bijoux, tout ça dans les valises. Ils avaient tout emmené, leur manteau de fourrure et tout. On leur avait dit, vous allez dans un camp de travail, vous aurez votre lampe de chevet, votre petite table de nuit. On nous a monté le borichon, hein. Ça, je reconnais que, en parlant vulgairement, hein. Bon, on savait pas. Moi, j'ai dit, le travail ne me fait pas peur, j'ai l'habitude de travailler. Bon. Alors, on est allé de Drancy, c'est des autobus qui sont venus nous chercher. Et on nous a emmenés à la gare de Bobigny, à côté, où il y avait des wagons à bestiaux. C'était une gare de triage, hein. Des wagons à bestiaux qui pouvaient transporter 8 chevaux par wagon. Il n'y avait pas de chevaux, évidemment, c'était pour nous. Alors on nous a fait monter dans ces wagons. Alors là, on était 80 personnes par wagon. Hommes, femmes, enfants, vieillards, malades. Il y avait vraiment ça, on était vraiment mélangés. On
ne savait pas où vous alliez. Là.
On savait toujours pas où on allait. Personne ne voulait nous le dire. Ils le savaient, mais on voulait. Bon. Alors, comme on faisait déjà à Drancy, quand le camion venait le matin apporter denrées alimentaires, le chauffeur laissait toujours la porte de son camion ouverte. Puis nous, comme on n'avait rien à faire à Drancy, on marchait et puis on jetait des petits papiers, des lettres. On avait emmené avec nous du papier, etc. Mais on n'avait pas les timbres. Et alors, le chauffeur, quand il était là, on disait, on n'a pas de timbre. Vous inquiétez pas, votre lettre partira. Il ne faut pas oublier ça, c'est faut le dire. Hein. Donc, on a fait pareil quand on est monté dans les wagons à bestiaux. On a acheté des petits papiers tout le long de la voie ferrée. Des petits papiers, prévenez un tel, prévenez un. Bon, moi, j'avais plus grand monde à prévenir, mais enfin, bref... Ça a duré jusqu'à 17h, 18h, je crois. Ça, c'était le 10 ou le 12 mai. Attendez, voir. Oh non, le 15 mai 44. On entendait les avions qui passaient. On disait, si seulement ils pouvaient bombarder, on se sauverait. Mais pour aller où? Dans le fond, Quand on n'est qu'une ouvrière, on ne sait pas où aller, qu'est-ce qu'il faut faire. Quand on fait partie d'un réseau, c'est différent. Eux, ils pouvaient nous grouper, mais bon. On est parti, donc le soir, le train a démarré vers 17h. Et on a roulé toute la nuit. Le lendemain, alors évidemment, dans le wagon, à 80 personnes, j'aime autant dire que c'était pas... Il y avait une tinette à seau, un grand bidon, pour les 80 personnes. Enfin, il y avait des bébés. Il y avait des enfants, il y avait, enfin, tout mélangé, des hommes, des vieillards, des familles entières. On a roulé comme ça toute une nuit, puis toute la journée du lendemain. Ensuite, le train s'est arrêté en pleine campagne, après Francfort. Je me rappelle qu'on avait vu par la petite... il y avait un petit grillage dans le wagon. On avait vu Francfort, hein, en allemand. Alors après, peut-être une demi-heure après, le train s'est arrêté en pleine campagne. Je ne sais pas où c'était. Et puis on nous a donné l'ordre de descendre, de ramasser toute la paille qui était humectée de tous les excréments, des urines et tout le monde, puisque ça débordait automatiquement. Alors, les plus jeunes, hein, bien sûr, parce que les autres, les personnes âgées, elles étaient complètement... elles étaient épuisées, puis plus de morale, et puis pleurées, puis tout. Bon, enfin, bref, on a fait ça. Puis on était contents, on respirait un peu. Moi, j'avais 20 ans, hein. J'étais en pleine force, hein. Alors bon, on était contents, on respirait, on a tout débarrassé. On a été vider le seau comme on a pu, on a acheté ça en pleine nature. Et puis on est resté là à peu près un quart d'heure, une demi-heure maximum. On nous a fait remonter dans les wagons. Il n'y avait pas de pas, il n'y avait rien d'autre. Ça sentait pas bon, j'aime autant vous dire que... Hein. Et puis rien à manger, rien à boire, que ce qu'on avait emmené de Drancy. Et pas grand-chose. Et puis on est reparti, on a encore roulé. En tout, on a passé 3 nuits et puis 2 jours dans les wagons. 2 jours, 2-3 jours dans les wagons. Et on est arrivé à Birkenau, comme ça. On voit le train qui s'arrête. On entend des...
Pendant ce voyage, des personnes sont décédées, non ?
Ah oui, il y avait Madame Rickles, la mante Rickles. La mère, à l'époque, hein, elle était âgée. Elle était devenue folle, elle. Elle perdait la tête. Il y avait deux jeunes garçons, eux, ils essayaient d'enlever les lamelles des wagons pour se sauver. On leur a dit non, non. On nous avait dit au départ, si quelqu'un essaye de s'évader, tout le wagon sera fusillé. Alors on n'a pas. on n'a pas laissé faire. Bon, il y a eu ça. Il y a eu des hommes aussi qui se sont battus. Je ne sais même pas pourquoi, politique ou autre. Enfin bref. C'était infernal dans ces wagons, puis la chaleur, c'était au mois de mai, mais il faisait chaud à Paris au mois de mai.
Thank you.
Enfin, on est arrivé à Birkenau, il y avait de la neige. Et alors qu'on avait quitté Paris, qui faisait déjà très chaud. Arrivé là-bas, le train donc s'est arrêté. Et puis, on nous a donné l'ordre de descendre, mais de laisser toutes nos valises, tout dans les wagons. Donc, on n'a rien pris, on a tout laissé. Puis alors, comme on avait mis nos noms, il y avait le nom et l'adresse, on s'est dit, oh, demain, on nous redonnera nos valises. C'était le soir, on est arrivé vers 18h, par là, 6h, il faisait noir déjà. Alors, on descend des wagons, puis on reste devant les wagons, sans bouger. Puis on voit ces pauvres gens, des hommes, des femmes, qui baissaient, qui ramassaient, je sais pas quoi, des papiers, faisaient, où ils travaillaient, je sais pas exactement, mais maigres, habillés avec des vêtements rayés, vous voyez. Oh, on a commencé à avoir peur. Alors là, on a eu peur, hein. On avait déjà eu peur en partant de Paris, mais alors là, quand on a vu ça, ce désert, et puis ces femmes maigres aussi, mais maman, qu'est-ce qui se passe ici? On se posait des questions, on se regardait. Puis alors, il y a des hommes qui passaient devant nous, qui faisaient semblant de ramasser quelque chose par terre. Ils nous disaient, si vous avez des enfants de moins de 16 ans, ne le dites pas. Quand vous passerez au contrôle, on va vous demander quel âge ont vos enfants. Dites qu'ils ont 16 ans. Dites qu'ils ont 16 ans. Ben, on disait, pourquoi? Mais alors, ils nous le disaient très doucement. Hein, très doucement, fallait pas que les sentinelles ne s'occupaient pas d'eux encore, ni de nous encore pas. Alors on se disait, mais pourquoi? Bon, on cherchait pas à comprendre, on exécutera ce que les déportés, d'après nous, c'était des déportés aussi, comme nous, nous avaient dit de dire qu'ils ont 16 ans. Les femmes ont dit, on dira, s'ils ont 13 ans ou 14 ans, on dira qu'ils ont 16 ans. D'accord, avec ça, les valises dans les wagons. Au bout d'un moment, on nous a tous fait venir sur la place d'appel. Ils appelaient ça la place Appelplatz. En allemand, ils parlent à l'envers. Bon, alors la place d'appel, toujours en allemand, on ne comprenait pas l'allemand. Heureusement qu'il y avait des personnes avec nous, très instruites, très, très érudites, comme on dit maintenant, très intelligentes, qui nous traduisaient. Alors bon. On nous disait, vous restez là, vous ne bougez pas. Alors, il y avait tout le monde, les hommes avec toute leur famille, hein, leurs enfants, leurs femmes. Pas de valise, tout était dans les wagons. Alors, est arrivé un homme. Après, on a su qui c'était, Joseph Mengele. Puis des sentinelles. Et puis des gros chiens, avec les sentinelles, les gros chiens. Ils ont commencé à trier, faire une sélection, ce qu'on appelle une sélection. C'est-à-dire... Ils ne gardaient que les personnes, hommes et femmes, aptes au travail. Uniquement aptes au travail, c'est-à-dire dépasser 40, 50 ans maximum, grand maximum. Je ne sais même pas si elles avaient 50 ans encore, les femmes, je ne sais même pas. Mais tous les autres, les enfants, qu'on arrachait aux bras de leur mère, les pauvres gosses qui étaient accrochés, « Maman, j'ai faim, maman, j'ai soif. » Non, allez. Les malades, les handicapés, tout ça d'un autre côté. Alors, voyez, déjà la scène atroce, les enfants qui appelaient leur mère, les mères, leurs enfants, et les mères disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire de nos familles, de nos maris? Il y a mon père, il y a ma mère, puis mes enfants, puis mes bébés, les bébés. Tout ça, tout d'un côté. C'était quelque chose d'atroce. Alors là, on avait peur, on tremblait, on n'osait plus, on était tétanisés, nous. On était là, on ne bougeait pas. Et puis les femmes qui pleuraient, qui criaient, les femmes qui essayaient d'aller retrouver, d'aller arracher leurs enfants. Il y avait les chiens, les sentinelles prêtes à mordre, ou bien les sentinelles qui les schlaguaient déjà. Ah ben on a dit, c'est pas possible, où est-ce qu'on est? C'est l'enfer ici. Alors enfin, bref, ça a duré des heures. Hein, on était 1200 dans le train, 1200 personnes. Hein. C'était un train qui faisait 1200 personnes. Et plusieurs wagons. Au bout d'un certain temps, je ne peux pas vous dire combien, il y a des camions qui sont arrivés. On a fait monter toutes les enfants, les vieillards, les malades dans ces camions, avec les chiens qui étaient là, prêts à mort, des gros bergers.
Sur les 1200, la répartition, ça a été...
Ah ben, je peux pas
combien
vous dire.
À peu près
je peux pas, là, je peux pas vous dire. Hein.
Un tiers,
non, on a eu tellement peur. On tremblait tellement que... Ça, je peux pas vous dire. Hein. Ça, je pourrais pas. Je sais qu'on est revenu, enfin, de mon convoi, on est revenu à 3%.
En France.
Après. À 3% sur le convoi de 1200 personnes. Bon, enfin, bref. Donc, on a emmené toutes ces personnes. On les a fait monter de force dans les camions avec les chiens qui aboyaient, les sentinelles qui hurlaient. Enfin, c'était quelque chose d'atroce. Puis les camions sont partis. Alors, il y avait des déportés qui étaient là, qui travaillaient à côté de nous. On leur disait, on essayait de se faire comprendre parce qu'ils parlaient tous allemand ou polonais. Ils savaient toutes les nationalités. Enfin, bref, nous, là, on a séparé les hommes des femmes. Il y avait le camp des hommes, le camp des femmes. Et nous, les femmes, on nous a dit, suivez-nous. Enfin, toujours en allemand, avec les traductions à côté. On a suivi, on nous a emmenés dans une grande salle, on nous a fait déshabiller, alors toujours avec des femmes, des déportés. On a appris que tout le travail du camp était fait par des déportés. Même le Sonder Commando, le crématoire, c'était des déportés qui faisaient...
On a fait les capots.
Ah non.
Non.
Ah non, non. Attention, c'est pas pareil. Les capots, c'est ceux qui nous commandaient.
C'était des anciens déportés aussi.
Non, hein, c'était des criminels qui étaient en prison, des déportés. Des droits communs. Des gens qui avaient tué, des assassins qui étaient en prison. En échange, ils avaient la liberté, mais en échange, il fallait qu'ils viennent nous garder. Alors ceux-là, c'était féroce aussi. Mais c'était des civils, c'était pas des militaires. Bon, alors ça, c'est encore autre chose. On l'a appris donc après. Alors nous, on nous a fait déshabiller, puis on a dit nos valises qui sont restées dans le... On nous a fait mettre toutes nues. Et on nous a rasé des pieds à la tête et plus de cheveux. Après, on est allé dans une autre salle, on nous a mis notre numéro matricule. Tout ça par des déportés, des personnes qui avaient été arrêtées pendant la guerre. Alors de toutes les nationalités, des Hongrois, des Polonais, des Italiens, des Grecs, des Espagnols, on était tout mélangé. Avec toutes sortes de gens. Il y avait des déportés, il y avait des droits communs avec nous.
Il n'y avait
nous.
Que des juifs dans tout
ça. Ah, mais pas du tout. Il y avait Marie-Claude Vaillant-Couturier qui avait été arrêtée bien avant nous, elle était communiste. Il y avait des communistes. Il y avait tous ceux qui étaient contre le régime nazi. Il y avait toutes les prostituées de Berlin qui avaient été arrêtées, qui étaient aussi avec nous. Ah, mais c'était un camp immense, hein, le camp de Birkenau. Alors, on a appris que d'abord, c'était le camp d'Auschwitz qui avait été construit depuis 1933 ou 1935 pour mettre tous les communistes, ceux qui étaient contre le régime nazi. On les enfermait là. Alors, ils ont construit des baraques. Ensuite, au bout de quelques années, ils ont aperçu que le camp d'Auschwitz n'étant pas assez grand, ils ont reconstruit un autre camp à 3 km qui s'appelait Birkenau. Et Birkenau, c'était un camp d'extermination. C'est-à-dire qu'en arrivant, on était tout de suite sélectionnés, soit pour le travail, soit pour la chambre à gaz. Il n'y avait rien d'autre.
Thank you.
Nous vous avons proposé la première d'une série de 3 émissions réalisées à partir d'un entretien avec Madame Jacqueline Tessier. Notre prochaine émission sera consacrée à son témoignage personnel sur sa vie et ce qu'elle a vu et subi à Birkenau puis à Bergen-Belsen où elle a été transférée début janvier 1945. Nous remercions très chaleureusement Madame Jacqueline Tessier pour son courageux témoignage et pour sa grande amabilité d'avoir bien voulu nous accorder sa confiance dans cette entreprise de révélation aux gens d'aujourd'hui de ce qu'il en fut de la barbarie nazie à laquelle s'est associée cette partie des Français qui ont constitué et soutenu le régime de Vichy. N'oublions jamais, avec Bertolt Brecht, que le ventre est encore fécond d'où est sortie la bête immonde. Puisse ce témoignage contribuer à démasquer dans notre monde actuel ce qui relève de cette abomination.
Quand il chante la femme, son frère, son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant, claque. C'est pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, se vise en claque. Quand les cons se redisent qu'ils noircissent le printemps, qu'une chance qu'on les vise, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance sans même mettre de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, ils noircissent le printemps, aucune chance qu'on les mise, mais on les claque. à son enfant quand un humain s'enflamme, c'est Bistanclac. C'est pas de la rengaine à gaver les passants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Bistanclac. Mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance sans même être de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se raidissent, noircissent le printemps, qu'une chance qu'on les bise, mais on les claque. On se bise.